Je vous invite ce matin à aller dans le livre du prophète Joël. Attention, en feuilletant vos pages, il n'est pas très long, vous pourriez rapidement le passer. Il se situe, si vous n'avez pas l'habitude, deux livres après celui de Daniel. Joël, chapitre 3, versets 9 et 10. Enfin, ça c'est pour les versions secondes, parce que le livre de Joël est parfois décomposé en chapitres pas tout à fait de la même façon en fonction de différentes versions. En tout cas, pour ceux qui ont une seconde, vous êtes au verset 9 et 10 du chapitre 3. Avant de faire la lecture, je voudrais replacer ce message dans la continuité du message de vision que je partageais avec vous il y a 15 jours. Rappelez-vous, je l'avais intitulé « Le temps de la conquête ». Il était basé sur le livre de Josué. Et nous avions parlé ensemble alors de l'esprit et de la manière du combat. Nous sommes engagés dans un combat, non pas pour verser le sang. D'ailleurs, le seul sang qui nous intéresse dans ce combat, c'est celui que notre chef a versé, Jésus-Christ. Nous ne combattons pas les hommes, nous ne combattons pas les religions, nous ne combattons pas les gouvernements, nous ne voulons pas conquérir des territoires. Nous venons vers les hommes avec un message de réconciliation de la part de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais c'est malgré tout un combat dans lequel nous sommes engagés. Un combat pour la libération, l'émancipation des hommes vis-à-vis de tout ce qui les tient en esclavage, c'est-à-dire le péché, l'injustice, la maladie, la servitude de la mort, la puissance de Satan. Et dans ce combat, mes frères et sœurs, il est clair que nous n'allons pas y monter la fleur au fusil. Et il nous faut des armes. Et c'est bien de cela dont nous allons parler ce matin, des armes pour le combat dans lequel Dieu nous envoie. Alors faisons la lecture. Le verset 9, pour faciliter les choses, commence par ce verbe « publier ». Donc si vous êtes au chapitre 4, excusez-moi, je ne sais plus quel verset c'est dans notre décomposition, mais ça commence par « publier ces choses parmi les nations ». Je lis donc. « Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances, et que le faible dise, je suis fort, amen. » Voilà la problématique de ce message ce matin, c'est de parler de la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes une église de Pentecôte, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le label que nous avons, mais c'est notre foi dans la promesse du Saint-Esprit et notre désir de vivre cette promesse, de vivre la vie de l'Esprit. Beaucoup au milieu de nous sont baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup expérimentent les dons spirituels dans l'Église, les exercent, ou même dans leur vie de tous les jours. Dieu les conduit, les inspire, leur accorde à l'un une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, à l'autre peut-être même des visions, des songes. Beaucoup d'entre nous sont des hommes, des femmes engagés dans le service de Dieu, dans la prière, dans le témoignage. Pourtant, il y a une question qui revient fréquemment. Pourquoi avons-nous l'impression de souffrir d'un manque de puissance? Au point même que des fois, des frères et sœurs évangéliques, non pentecôtistes, nous disent « Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre vous, pentecôtistes, qui vous dites être revêtus de la puissance de Dieu, et nous ? Quelle différence y a-t-il ?» Et parfois, nous sommes embarrassés. Alors, que nous sommes donc baptisés du Saint-Esprit, pourquoi exerçons-nous peu suffisamment la puissance de Dieu ? C'est la problématique de ce message aujourd'hui. Et la réponse que je vais développer avec vous ce matin de vous montrer que nous avons tout ce qu'il nous faut pour exercer cette puissance. C'est ce que Pierre écrit dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 4. « Par sa divine puissance, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Mais ce que je vais vous montrer, c'est que trop souvent, nous n'avons pas orienté notre relation avec le Saint-Esprit, le potentiel de puissance que le Saint-Esprit nous accorde vers le combat, mais vers le confort. Non pas vers le combat, mais vers le confort. Alors, déjà, je vous apporte une bonne nouvelle. Heureusement, rien n'est perdu. Nous pouvons corriger le tir. Avant d'aller plus loin dans ce message, je veux vous dire aussi que j'ai été très encouragé cette semaine par des mails qui m'ont été transmis C'était jeudi après-midi, j'avais fini de méditer, de préparer ce message, et je reçois ces mails, et il nous arrive de la part de Teresa Conlon, vous vous rappelez peut-être de Teresa, l'épouse du pasteur Carter de l'église de Times Square à New York. Elle est en ce moment en France, à Montluçon, pour une conférence de dames. Et alors qu'ils annonçaient ce déplacement, qu'elle annonçait, son mari, je ne sais pas, à l'église de Times Square, des gens sont venus la voir, des hommes et des femmes de Dieu, connus apparemment pour leur vie de prière, leur vie de l'esprit. Ils sont venus les voir, et ils leur ont dit, nous avons vraiment reçu de la part du Seigneur un fardeau pour la France, et nous croyons que Dieu prépare une visitation par son esprit pour ce pays. Et ils nous ont dit, voilà le message que Dieu nous a donné, forgez vos épées. Forgez vos épées. Quel encouragement pour moi, alors que je venais de travailler justement sur ce verset. Alors on va voyager un peu dans la Bible, je vais vous inviter à tourner les pages, on ne va pas forcément lire les versets qui sont là devant nos yeux, mais simplement peut-être une aide pour certains qui connaissent un peu moins ces passages. Nous allons aller dans Matthieu 25, tout d'abord dans Matthieu 25 il est question de deux paraboles, la parabole des vierges et ensuite la parabole des talents à partir du verset 14. Alors que savons-nous au sujet de cette parabole ? Cette parabole nous dit que Dieu a fait de nous les gestionnaires, les administrateurs de son royaume. Nous ne sommes pas simplement des sujets passifs, nous sommes des serviteurs actifs. Et nous avons un rôle important à jouer dans l'expansion du royaume de Dieu, du royaume de Jésus-Christ sur terre. Et pour cela, Dieu ne nous donne pas simplement une mission en nous laissant nous débrouiller, mais il nous accorde des dons. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4:10 que le Seigneur nous fait la grâce de dons. Il nous accorde des dons, des charismes que nous allons mettre au service les uns des autres. Ce sont des dons excellents, des dons puissants, qui ne se suffisent pas en eux-mêmes. Il ne suffit pas de dire « j'ai des dons », mais ce sont des dons que Dieu nous appelle à faire valoir, à gérer, à développer. Et c'est là tout l'enseignement de cette parabole des talents que vous connaissez pour la plupart, dans laquelle Jésus met l'accent sur le fait de faire valoir les talents pour son royaume. Le maître s'en va en voyage, il confie des talents à ses serviteurs, 1, 2, 5, suivant les capacités des uns ou des autres. Et il attend d'eux qu'ils fassent travailler ce qu'il leur a confié. Et dans cette parabole, ils seront ensuite récompensés selon le fruit de leur gestion. Mais vous savez qu'il en est un qui va être sévèrement repris. Le maître va l'appeler serviteur méchant et paresseux, parce qu'au lieu de faire travailler, de faire valoir ce que le maître lui avait confié, Jésus nous dit qu'il l'avait enfoui, caché. Mais au juste, qu'est-ce qu'un talent ? À cause de cette parabole et de la tradition chrétienne, ce mot est devenu synonyme de capacité à faire quelque chose. J'ai un talent, je sais faire quelque chose. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas du tout ça. Au temps de Jésus, un talent était une mesure de poids, de masse. Aujourd'hui, le kilo, le quintal, etc. À l'époque, on parlait d'un talent pour évoquer une masse, et particulièrement une masse de métal. Une masse de métal de 50 kilos. Vous imaginez un bloc de métal de 50 kilos. Voilà ce que le maître avait donné à l'un de ses serviteurs, et même il y en a un qui a eu 5 fois 50 kilos de métal. Première idée qui me vient, c'est que si Jésus fait référence à une masse aussi importante, c'est pour souligner la puissance du don que Dieu nous accorde. Quand Dieu nous fait des dons, ce ne sont pas des petits dons, d'une petite masse, d'une petite force, mais ce sont des dons imposants. 50 kilos de métal, 250 kilos de métal. La deuxième chose, nous allons le voir tout à l'heure, ce métal pouvait être précieux en or ou en argent, où il pouvait être utile, en cuivre ou en fer. Mais ce métal était aussi brut. Par exemple, c'était une masse de minerai de fer. Et donc, après, il fallait l'utiliser, parce que, il fallait le transformer en quelque sorte. Alors, si le talent était d'or ou d'argent, imaginez 50 kilos d'or. Il possédait donc une grande valeur en lui-même, ce qu'on appelle une valeur d'échange. Vous vous retrouvez avec un bloc d'or de 50 kilos, une pépite immense. Vous la trouvez au fond d'une rivière, même si elle est toute difforme, qu'elle est brute comme cela, vous savez que vous n'avez même pas besoin de la transformer. Rien qu'en elle-même, elle vaut une fortune. Mais évidemment, pour faciliter les choses et pour contrôler les flux, on a toujours, depuis l'Antiquité, transformer cet or et cet argent. On les faisait fondre. Et puis ensuite, on frappait des pièces. Ou alors, on confectionnait des bijoux d'apparat. Ou alors, on les transformait en grandes lames pour servir de plaquage sur des meubles. Et ça, c'était le travail de l'orfèvre. Un travail minutieux, un travail délicat. Et les talents d'or et d'argent servaient à l'investissement. On pouvait financer des projets avec de l'or et de l'argent. On pouvait aussi épargner, ce qu'on appelle la thésaurisation. Ou alors, ça servait aux échanges commerciaux. L'un apportait le fruit de son travail, l'artisanat, et l'autre le payait avec des pièces en or ou en argent. Bon, ce sont des choses que nous connaissons bien. Le Seigneur nous a donné des dons d'une grande valeur. Dans la parabole de Matthieu, chapitre 25, verset 18, il est précisé que le métal était d'argent. Pas des pièces d'argent, de l'argent, hein, l'argent métal. Donc, un des serviteurs a reçu 50 kilos de métal argenté et un autre en a reçu même 250 kilos. Je n'ai pas vu le cours de l'argent aujourd'hui, j'ai vu le cours de l'or. Un lingot d'un kilo cette semaine, c'était 31 000 euros. Donc 50 kilos d'or, 1 500 000. 250 kilos, 5 talents, 7 500 000 euros. Non seulement quand le Seigneur parle de talents, il est en train de nous dire qu'il nous donne des dons puissants, une masse importante, mais il nous donne aussi des dons d'une grande valeur. Oui, tout don qui vient de Dieu est parfait et excellent. Dans le monde, certains ont des voix d'or. Certains ont des mains en or. Certains ont des capacités en or. Et tout ce qu'ils font, ils le transforment en or. Tout semble facile pour eux. Tout semble réussir sans effort. Tant mieux pour eux. Dans l'Église, certains pensent avoir eux aussi des talents d'or et d'argent. Ou plutôt, ils semblent considérer leur personne et leur capacité comme telles. Généralement, ils sont insupportables. Et ils ne s'intéressent qu'à leur propre intérêt. Heureusement que Pierre a écrit dans une de ses épîtres que même l'or doit être éprouvé par le feu. Maintenant, je vais vous dire ceci. Dieu n'a pas dit que Canaan serait un pays d'or et d'argent. On n'a point trouvé de mine d'or ni de mine d'argent en Israël. Et même Salomon, qui aimait l'or, devait faire venir cet or depuis la mystérieuse contrée d'Ophir, au-delà des mers. Par contre, et je vous invite à aller avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 9, là, le Seigneur nous parle du pays de Canaan, et il nous dit ceci, Deutéronome, chapitre 8, verset 9, il nous dit, Canaan est un pays où tu mangeras du pain avec abondance, les richesses agricoles, et tu ne manqueras de rien. Mais il nous dit aussi ceci, c'est un pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes desquelles tu tailleras les reins. Et les reins à cette époque-là, c'était soit du cuivre, soit de l'étain. Donc le Seigneur n'a pas dit que Canaan serait une terre d'or et d'argent, mais il a dit que ça serait un pays de fer et de cuivre. Alors je vais vous dire ceci. Les dons du Saint-Esprit, les dons de prédication de la parole, les ministères que Dieu nous confie, pour moi ne sont pas des dons d'or et d'argent. Attention, en disant cela, je ne méprise pas la valeur des dons, mais je dirais qu'ils sont des dons de fer et de cuivre. Ce sont des dons qui ne sont pas faits pour l'apparat, avec lesquels on ne peut pas accéder à des places particulières. Il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un est venu me dire en disant « J'ai un don de prophète ». Comment est-ce que vous pouvez me faire une place dans votre équipe de pasteurs? Je lui dis, je pense qu'il a besoin d'être éprouvé par le feu. Non, les dons ne sont pas une valeur d'échange pour obtenir une place dans l'Église. Mais ce que Dieu nous confie, ce sont des dons avec des valeurs d'usage. Ce sont des talents bruts de minerai, de fer ou de cuivre. Ce sont des dons qui devront être transformés en vue d'un usage. Vous imaginez, Dieu nous donne 50 kilos de fer. Merci Seigneur. Vous baladez, j'ai 50 kilos de fer. Alors oui, 50 kilos de fer, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait comme l'or, ça vaut pas énormément. De cuivre, c'est déjà mieux, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le cuivre est recherché. Hein, les gens de la SNCF ou de la RATP sont parfois bien ennuyés, et vous aussi, nous aussi. Mais le cuivre, le fer, c'est quand même pas comme l'or et l'argent. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont une grande valeur. Non pas en ce qu'ils sont, mais en ce qu'ils permettent de faire. Essayez de faire des outils en or. L'or est un métal tendre. Par contre, des outils en fer, oui. Pour l'artisanat, pour la construction, pour l'agriculture. On peut même en faire des machines. Oh, maintenant, elles seront en acier. Enfin, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut en faire des armes. Et ça, ce n'est pas le travail de l'orfèvre, mais c'est le travail du forgeron. L'orfèvre travaille l'or et l'argent, mais le forgeron travaille le fer et le cuivre. Alors le Seigneur nous donne donc des talents de cuivre et de fer, excusez-moi. Et je considère que nos dons sont de fer et de cuivre. Et il nous appartient de les transformer, parce que c'est un minerai brut que Dieu nous donne. Et comment allons-nous les transformer? En les apportant à la forge de Dieu. Pour que le minerai brut que Dieu nous donne soit placé dans la flamme intense de la forge pour être chauffé et même fondu. Afin qu'ensuite, le forgeron vienne avec son marteau pour former, transformer ce métal selon la forme qu'il doit avoir ensuite. Je voudrais que nous allions maintenant dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, verset 19. On va prendre le temps là de faire une lecture, elle est très simple, hein, Samuel 13, verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Et quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Tout au début du premier roi d'Israël, Saül, il était donc un temps où il ne se trouvait point de forgeron en Israël. Il y avait du fer, il y avait du cuivre dans le pays, mais il n'y avait personne pour les travailler. Et cette situation profitait aux ennemis d'Israël, les Philistins, qui, eux, n'avaient ni fer ni cuivre dans leur contrée, mais par contre, ils avaient un grand avantage sur les Hébreux, qu'ils entretenaient soigneusement, ils maîtrisaient parfaitement les techniques de la forge. Et afin de maintenir Israël sous son contrôle, ils faisaient en sorte que ceux-ci n'acquièrent pas ces techniques. Au point même que pour l'entretien de leurs outils, lorsqu'ils étaient émoussés ou lorsqu'il fallait redresser les aiguillons, les paysans hébreux devaient descendre chez les Philistins pour faire le travail de réparation et d'entretien. Et ainsi les Philistins qui n'avaient ni fer ni cuivre, mais qui avaient des forgerons, contrôlaient ce qu'il advenait du fer et du cuivre que les Hébreux extrayaient de leurs collines. Les forgerons philistins fabriquaient et entretenaient pour eux des outils pour l'agriculture. Travailler la terre d'Israël. Et puis quand les moissons étaient là, ils allaient dans le pays pour récupérer les choses. Mais par contre, il Il y a quelque chose que les forgerons philistins refusaient de forger pour Israël, c'était des armes. Israël dépendait à ce moment-là de ses ennemis pour transformer et entretenir son métal. Mais en plus, il ne disposait d'aucune arme en fer. Ils étaient un pays d'agriculteurs, mais certainement pas un pays de guerriers. Et nous lisons au verset 22, « Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan, son fils. » Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aspirent aux pluies d'or divines. Mais le royaume de Dieu est avant tout riche en fer et en cuivre spirituel. Et Dieu met à notre disposition du métal brut spirituel qui doit être ensuite transformé, forgé. Dieu merci, nous ne sommes pas comme au temps de Saül, nous ne sommes pas sans forgerons. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous bénéficions du ministère de nombreux enseignants, de formateurs, de gens qui peuvent aussi nous enseigner dans la vie de courant, dans la vie de tous les jours. Enfin, tant de domaines où Dieu a suscité des forgerons. Nous ne dépendons pas du monde pour cela, pour développer les talents que Dieu nous confie, le fer et le cuivre qu'il nous donne. Mais malgré tout, une question demeure. Où sont les armes ? Où sont les armes ? Dieu nous fait des dons. Une masse de métal brut à valeur d'usage, de fer ou de cuivre. Mais qu'en faisons-nous ? Quelle forme donnons-nous à ce métal, à ces dons ? Et je vais vous dire, je crains qu'à cause de l'affaiblissement de la foi, nous ne forgions aujourd'hui que des outils. Nous sommes un peu comme dans la situation d'Israël au début du règne de Saül. Le fer que Dieu nous donne n'a pas été transformé en épée ou en lance ou en pointe de flèche ou en casque ou en bouclier ou en cuirasse, mais il a été transformé en outil, en hoyau, en serpe, en fourche, en tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Eh bien, on le voit bien dans les thèmes dominants de nombreux enseignants contemporains qui ont pignon sur tous les sites internet ou dans toutes les églises ou dans les livres. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est la dominante dans les enseignements ? Le bien-être des chrétiens. Le développement personnel. La prospérité matérielle, familiale, le confort. On veut des messages très pratiques, très encourageants. Des messages motivants, des messages qui nous parlent de succès, de réussite. Je le disais, on veut qu'on nous parle de choses agréables, parlez-nous de confort. Dieu nous a donné du minerai brut de dons. Et nous avons pris l'habitude de les transformer en outils pour notre confort. Au point que la plupart des chrétiens n'ont que des outils entre leurs mains. Et que beaucoup de prédicateurs ne savent que forger des outils. Et dans des églises et des mouvements entiers, on ne parle que d'outils. Qu'est-ce que je fais comme différence entre des outils et des armes ? Ben, les outils, voilà, c'est le développement, c'est la prospérité, c'est tout ce qui va nous rapporter quelque chose. Et donc, on considère que les dons de Dieu sont là pour nous rapporter quelque chose. Que ce soit les ministères de prédication, que ce soit même les dons spirituels, que ce soit la foi, je sais, mais il faut que ça me rapporte quelque chose. C'est tout pour des outils. Et je ne dis pas que Dieu est contre le fait que nous tirions de ce qu'il nous donne, de ce fer qu'il nous donne des outils. Le Seigneur, nous l'avons lu dans Deutéronome 8, verset 9, dit que Canaan est une terre de bénédictions. Et Dieu veut bénir nos vies, il veut bénir nos familles. Il est prêt à nous donner toute la réussite, le succès que nous voulons. Mais la question que je vous pose, avec 50 kilos au minimum de fer spirituel, pourquoi ne forgeons-nous que des outils ? Ne pouvons-nous pas tirer de cette grosse masse de métal des épées, des lances, des casques ? Mais nous sommes tellement concentrés sur ce qui va nous rapporter. que nous n'avons même plus le désir. Ou l'idée même de penser qu'on peut faire avec ces choses des armes. Et la situation d'Église aujourd'hui, c'est que bien que nous ayons du fer et du cuivre spirituel, parce que Dieu continue de donner son esprit, Dieu continue de donner des dons extraordinaires, des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de foi. Dieu appelle encore au ministère de nombreux frères et sœurs selon la part qu'il leur donne. Nous avons des forgerons pour nous enseigner, pour nous former. Mais malgré tout, nous sommes un peuple sans armes. Si ce n'est celles qui sont entre les mains de quelques-uns, quelques prédicateurs, quelques évangélistes, quelques frères ou sœurs zélés pour la prophétie, le témoignage ou la prière, comme au temps de Saül et Jonathan. Mais voici l'heure du dernier combat. Et il nous faut le préparer. Mais où sont nos lances? Où sont nos épées? Nous n'avons dans les mains que des serpes, que des hoyaux, que des bêches, que des fourches. Comment les héros monteront-ils au combat? Comment monteront-ils s'ils n'ont point d'armes entre les mains? Alors nous disons, Seigneur, il nous faut des armes. Il y a une mission devant nous. Il nous faut des armes. Donne-nous, Seigneur, des dons de puissance. Donne-nous des dons de guérison. Donne-nous, Seigneur, une inspiration prophétique. Donne-nous, Seigneur, de l'audace, la foi, le Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez ce que le Seigneur nous répond? Je vous ai donné ces choses. Ah bon, Seigneur, où? Elles sont là entre tes mains. Comment ça entre tes mains? Mais Seigneur, entre mes mains, il n'y a que des outils. Et Dieu nous dit ceci. Il y a des outils parce que tu as voulu qu'il y ait des outils. Mais à la base, je t'ai donné du fer brut. Et avec ce fer, nous aurions pu modeler ensemble des épées, des lances. Avec ce fer, avec toute la puissance du Saint-Esprit, au lieu de te sentir faible, tu pourrais dire maintenant, je suis fort. Mais tu n'as pas choisi le combat, tu as choisi le confort. Mes frères et sœurs, c'est peut-être là aussi qu'il y a cette fameuse lettre à l'église de Laodicée. Et c'est bien le syndrome de notre siècle aujourd'hui, le matérialisme, le consumérisme, le toujours plus. Et l'église s'enfonce dans cela, la réussite, etc., etc., la course après l'argent, la course après toutes ces choses, le confort, le confort, le confort. Et au bout du compte, nous sommes faibles. Et c'est comme ça que nous en arrivons à ce paradoxe. Nous disons, mais Seigneur, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en langue, nous devrions être vêtus de puissance, nous prophétisons, nous servons. Mais nous sentons faibles. Parce que nous n'avons entre nos mains que des instruments pour la culture, des outils. Des instruments qui sont formés pour des temps de paix, de prospérité, de tranquillité. Mais pas pour monter au combat. Et nous avons... Oubliez trop vite, mes frères et sœurs, que nous sommes engagés dans un combat contre un ennemi destructeur. Et lui, il rit. Mais alors, il rit de ce que nous transformions le métal que Dieu nous donne en outil pour notre confort. Parce qu'il sait que ce métal aurait pu devenir des lances, des épées. Mais alors, des tridents, des fourches, des bêches, même si vous voulez, si vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main parce qu'ils sont un peu émoussés, ou pour redresser les aiguillons, vous pouvez aller voir. Les forges du monde sont prêts à vous aider dans ce sens. Et Satan rit. Mais nous sommes dans un temps de guerre et nous avons besoin d'armes pour combattre. Alors je voudrais que nous retournions une dernière fois dans le livre de Joël, au chapitre 3, versets 9 et 10. Joël, chapitre 3, versets 9 et 10. Maintenant, écoutez ceci. Je résume un peu tout ce que nous avons dit. À la base, Dieu nous accorde des dons, des talents, qui sont des masses de métal spirituel. Un talent de minerai de fer pur, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Dieu aussi a bâti pour nous une forge. Il a donné le feu et il donne le marteau. Je vais revenir sur ça. La question maintenant, nous la rappelons, c'est que forgeons-nous, que forgerons-nous avec le fer brut qu'il nous donne? Et nous constatons que trop souvent, nous choisissons de forger l'un une bêche, l'autre une serpe. Cependant, avec le même métal, le même don, avec la même forge, dans le même feu, avec le même marteau, nous aurions pu forger une épée ou une lance. Si nous prenons conscience de cela, si nous prenons conscience des temps dans lesquels nous vivons, alors nous voulons certainement remédier à la chose parce que nous ne pouvons pas monter au combat avec nos fourches. Et nous entendons l'appel du prophète et nous disons, Seigneur, mais il faut faire de nos outils des armes. Et justement, Joël écrit, forgez des épées de vos hoyaux et de vos serpes des lances. Seigneur, je réalise que le fer que tu m'as donné, je l'ai utilisé pour mon confort. Je l'ai utilisé pour ma propre bénédiction. Mais je réalise, Seigneur, que ce fer, là, pourrait devenir une épée. Il aurait pu être une épée, mais Seigneur, il peut redevenir une épée. Comment allons-nous procéder? Allons-nous prendre des marteaux comme ça pour essayer de taper sur nos dents et on va transformer nos dents. Et demain, je vais devenir un combattant du Seigneur. Si vous faites comme ça, ça va casser. Mais le fer a un grand avantage. C'est qu'il est possible de le retransformer en le mettant dans la forge, en le faisant chauffer jusqu'à ce qu'il s'embrase, afin qu'ensuite le forgeron puisse prendre son marteau pour le redessiner, pour le retransformer. La forge de Dieu, c'est l'autel de Dieu. La forge de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Et si nous voulons qu'il y ait un changement dans nos vies, et si nous ne voulons plus sentir la faiblesse tout en étant baptisés du Saint-Esprit, si nous voulons que nos dons prennent une autre dimension, une dimension prophétique, et non pas simplement pour les besoins de notre vie, il nous faut revenir au point de départ, c'est-à-dire la croix de Jésus. Et reconsidérer notre vie à cet endroit-là. C'est là que le processus de transformation débutera. Seigneur, je me replace devant toi. Mais ça ne va pas être facile. Parce que c'est à ce moment-là que nous allons aussi passer dans le feu. Le feu de la forge. Le feu qui fait chauffer le métal jusqu'à le faire fondre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que du métal brûlant. Mais avant même de parler des dons que Dieu nous a donnés, une réorientation des dons que Dieu nous a donnés, le Seigneur nous appelle d'abord à un changement de mentalité, ce qu'on appelle la repentance. Il faut que Dieu change notre mentalité quant à l'orientation et la fidélité que nous donnons aux dons et à la puissance du Saint-Esprit qu'il nous confie. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est celui qui réconforte, qui encourage. Mais il est aussi le Dieu Tout-Puissant qui confirme la prédication de la parole. Et il nous faut nous rappeler que le Seigneur ne nous a pas donné Saint-Esprit, son esprit et ses dons, simplement pour plus de bénédiction dans notre vie, mais pour l'action. La promesse du Saint-Esprit est liée à la vision de Jésus-Christ pour le salut des nations. Vous serez mes témoins et vous recevrez une puissance. Si nous voulons voir quelque chose de puissant dans notre vie, si nous voulons cesser de dire je suis faible, alors pas d'échappatoire, il nous faut revenir sur l'autel et il nous faut plonger dans le feu ardent de la forge de Dieu. Avant même de parler des dons, il faut parler de nous-mêmes. Il nous faut nous placer dans la prière, mais la prière selon Dieu. En demandant au Saint-Esprit de changer nos motivations. Devant le trône de Dieu, l'Apocalypse nous dit qu'il y a 7 lampes ardentes qui sont l'Esprit du Seigneur. Et au jour de la Pentecôte, le Seigneur a pris de ces flammes ardentes et elles sont venues se poser comme des langues de feu sur les disciples. Et nous avons besoin encore que le feu de Dieu vienne sur nous. Lorsque Ésaïe vit la gloire du Seigneur dans le temple, Ésaïe 6, il nous raconte à un moment qu'un ange est venu. Cet ange avait pris avec une pincette une pierre ardente de l'autel de Dieu et il est venu appliquer cette pierre sur les lèvres d'Ésaïe pour qu'il soit purifié. Nous avons besoin d'être touchés par les braises de l'autel de Dieu. Mais encore plus, nous avons besoin de nous laisser embraser jusqu'à l'incandescence. Je vais aller loin jusqu'à devenir une masse en fusion. Jusqu'à ce que nos façons de concevoir nos vies, notre engagement pour Dieu, l'utilité, la finalité des dons, les promesses de Dieu pour nos vies soient en fusion, liquéfiées. Mais n'est-il pas écrit dans les psaumes comme dans les Hébreux que le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu ? Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit que Jésus nous baptiserait d'Esprit Saint et de feu ? Alors je ne parle pas d'une autre expérience. Parce que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais je parle de replonger dans cette dimension avec une nouvelle vision. Non, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas fait simplement pour parler en langue ou pour avoir des frissons. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance pour une mission à accomplir. Et j'ai besoin, Saint-Esprit, d'être baptisé de ce baptême de feu. J'ai besoin que tu brûles tout en moi, qu'il y ait une incandescence, une fusion dans ma vie pour que tout ce qui est comme figé soit liquide, liquéfié, comme du fer en fusion. Et lorsque le Seigneur jugera que nous sommes suffisamment chauffés par sa flamme, parce que nous nous serons tenus devant lui dans la prière, il utilisera alors sa parole comme un marteau, non pas pour briser le roc, comme le dit Jérémie, non pas pour briser le fer, mais pour le façonner à nouveau. Il renouvellera notre cœur. Et ce qui est autrefois des instruments pour notre confort, pour notre encouragement, notre consolation, notre bénédiction, deviendront entre ses mains des armes offensives et défensives. Des casques, des boucliers, des cuirasses, des épées, des lances, des flèches de pointe. Alors nous réaliserons que nous avions toute la puissance du Saint-Esprit, mais celle-ci était trop orientée vers le confort et non pas vers le combat. Oui, Pierre l'a écrit, par sa divine puissance, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le prophète l'a annoncé, il nous faut publier ces choses parmi les nations, bientôt l'heure du dernier combat, bientôt le Seigneur paraîtra. Il nous faut nous préparer à la guerre, au combat. Alors il faut réveiller les héros, les hommes de guerre, pour qu'ils montent au combat. Mais que feront-ils, que ferons-nous si nous n'avons que des bêches, des serpes, des socs, des tridents pour affronter nos ennemis? Il est temps que l'Église change de mentalité et que nous cessions de travailler ou de vivre uniquement pour notre confort, notre développement, notre réussite, notre prospérité et que nous cessions d'utiliser les dons que Dieu nous accorde pour ses objectifs. Le temps est venu d'entendre en nouveau la voix du prophète qui nous dit « De vos hoyaux forgez des épées ». Et de vos serpes des lances. Le temps est venu de remettre nos vies et nos dons entre les mains du divin forgeron et de demander que les flammes brûlantes de l'Esprit de Dieu descendent sur nous à nouveau. Le temps est venu de sentir à nouveau dans l'Église le souffle dévorant de la forge divine et d'entendre à nouveau les coups de marteau sur le métal ardent. Que Dieu frappe, frappe, frappe et transforme nos vies. Il est temps enfin que nous tenions dans nos mains des épées, des lances, des points de flèche, que nous soyons prêts au combat et que nous puissions dire « Je suis fort » par l'Esprit de Dieu. L'Église n'a jamais été aussi confortable qu'aujourd'hui, mais n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et pourtant, nous avons tout, mais nous l'avons si mal orienté. À nous de revenir à la forge. Mon frère, ma sœur, tu as entendu ce message. Et pour la plupart d'entre vous, vous avez suffisamment de communion avec le Saint-Esprit pour décider quoi en faire. Et il nous appartient à chacun de savoir si nous voulons travailler simplement pour notre vie, notre réussite, ou si nous voulons véritablement rentrer dans la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Maintenant, nous savons cette chose. Comme dans la parabole des talents, viendra le jour, nous devons rendre compte pour notre administration. Et le Seigneur regardera, oh, tu as été un bon agriculteur, c'est vrai. Hein? Tu as bien moissonné. Ah oui, Seigneur, tu m'as béni. Hein? J'ai semé, j'ai récolté au centuple. Oh, j'ai été béni dans ma vie, béni, béni. Ok, et de tout le métal que je t'ai donné. Ah, oh, tu m'en as donné beaucoup, Seigneur. Ça a été vraiment une grande, grande, grande joie. Oui, tu n'as pas pensé à en faire des épées, des lances? Non, je pensais à mener un peu le combat pour le salut des hommes, pour la mission que je t'avais confiée. Ah bon? Ah bon? Il y avait ça aussi. Ah mais on ne m'a pas parlé de ça. Et je crois que beaucoup réaliseront qu'ils sont passés à côté du projet de Dieu. Et je ne voudrais pas que ça soit notre cas. Mais je vais vous dire, moi j'ai fait ma part, je ne peux rien faire pour vous de plus. C'est notre responsabilité à chacun. Parce que vous avez vu ce que Joël a dit. De vos hoyaux forgés des épées. Autrement dit, c'est à moi de prendre la responsabilité. Chacun. Chacun. Je ne peux pas le faire à votre place. Mais c'est à vous, avec le Seigneur, de dire je vais transformer tous les dons que tu m'as donnés, que j'avais conservés pour mon confort, en armes de guerre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse en conduire plusieurs vers la forge de Dieu. Et si j'ai une prière pour cette Église, c'est que si nous voulons aller vers le combat et la conquête, il faut d'abord que nous soyons une forge. Que le Seigneur se plaise à attiser la flamme du Saint-Esprit et qu'il se plaise à nous chauffer jusqu'à ce que nous fondions et qu'il puisse ensuite nous marteler par sa parole. Parce que je vais vous dire, des talents, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a plus que ce que nous pouvons imaginer, mais ils ne sont pas suffisamment orientés comme Dieu le voudrait. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici les choses que tu as placées sur mon cœur et par ta grâce.